grosse erreur, mais que l'on fait souvent, on dit Bruegel, Moyen-Âge, Bruegel, pas du tout, hein, on est au XVIe siècle, hein, on est en plein XVIe siècle. C'est-à-dire le Moyen-Âge français et flamand, il se termine au XIVe siècle, deux siècles après. Hein. Alors, une autre peinture de Bruegel qui est plus ancienne et que je trouve très intéressante, même si je l'ai pris aussi de mauvaise qualité, c'est La Chute des anges rebelles, qui est à Bruxelles, avec la chute d'Icare. Alors vous avez l'idée de la chute dans les deux. L'idée à chaque fois, c'est quand même que ce soit la tour de Babel, que ce soit dans la chute d'Icare ou dans la chute des anges rebelles, il y a toujours l'idée de quelque chose qui s'arrête, hein, quelque chose qui se termine. La tour de Babel, clac, elle s'arrête, et puis les humains sont obligés d'abandonner. La chute d'Icare, il est obligé d'abandonner, il tombe. Et là, la chute des anges rebelles, c'est aussi quelque chose qui est plus ancien, c'est une des premières peintures connues de Bruegel, et dans laquelle vous avez cette idée de la chute. Alors la chute de qui? Les anges rebelles, c'est ceux aussi qui ont été prétentieux. Hein, Lucifer, qui veut prendre la lumière, Lucifer, prendre la lumière, porter la lumière, l'archange préféré de Dieu au début, etc., mais qui d'un coup devient trop prétentieux, qui pense qu'on va égaler Dieu aussi avec sa lumière, pensant que lui aussi, finalement, il est presque aussi fort que Dieu, et donc il est précipité dans les abîmes, et devient l'archange du diable, des souterrains, hein, Lucifer. Donc un ange rebelle. Alors la chute des anges rebelles, Bruegel le fait, et c'est là où il a une manière très originale de le faire, puisque c'est une chute incessante. Et là aussi, on voit bien qu'il y a une dimension philosophique chez Bruegel. Si vous regardez bien, c'est que la cohorte des anges rebelles, qui vient du soleil, de la lumière, du paradis, du divin, elle est infinie. Elle est infinie, donc elle ne cessera jamais. Et l'archange ici, Michel, Saint-Michel-Archange ici, avec son épée, il est fragile, il a une armure, il n'a aucune passion, il fait un travail, on va dire, un travail systématique de raison. C'est qu'il sait qu'il n'en aura jamais fini, donc il ne faut pas s'énerver, il faut prendre son temps. Et les anges rebelles, c'est un peu une sorte de passion, de pulsion, d'une sorte de fausse valeur, hein, contre la lumière, et dont il faut se débarrasser en permanence. Et vous êtes, là, on n'est pas du tout dans un jugement définitif, ou dernier, ou même moral, c'est presque... C'est moi qui dis ça, c'est presque comme un office de raison. C'est que, eh ben, il faut combattre en permanence ces sortes de démons, de passions, de pulsions qui nous égareraient et qui seraient une fausse lumière, hein, et qu'il faut remettre à sa place, dire, dans les tréfonds. Et dans les tréfonds, ben, vous avez aussi tout ce qui fait peur, les monstres, les horreurs, les fantasmes. Alors souvent, c'est des animaux c'est fantastique, batraciens, oiseaux, insectes, qui sont dans des zones aussi inaccessibles dans les airs, sous les eaux ou sous la terre. Hein, on n'est pas du tout dans très peu de mammifères. Vous avez donc ces figures en espoir fantasmatiques, Freud qui trouvait vraiment un pied d'enfer ici, à regarder ça, etc. Et vous avez aussi des formes, des couleurs terrestres, donc tout ce qui est un peu, vous voyez, chthonien, des fortes souterraines, de couleurs souterraines. Donc chez Bruegel, vous avez ici une bonne dissociation des formes rondes et grouillantes, hein, qui sont effroyables. Mais en même temps, et c'est là le truc qui est un peu drôle, elles sont plus fascinantes et peut-être plus picturales que les formes des anges, qui eux, bon, font leur petit boulot, mais ils ne sont pas palpitants. Vous avez aussi ce paradoxe que, finalement, le moteur, peut-être, de l'humanité, c'est vrai que ce sont peut-être des forces obscures qui peuvent mener loin et mal, et mais en même temps, elles sont fortes, elles sont puissantes, elles sont fascinantes. Donc on n'est pas aussi dans un... Il n'y a pas une partition entre le beau et le laid ici, hein, puisque les forces positives ne sont pas montrées... il n'y a pas un paradis, n'est pas montré, les anges vraiment sont des personnages un peu falots, avec un F, hein, et puis même l'archange Saint-Michel est fragile, hein, alors qu'on sent une véritable force dans tout ce qui est associé aussi au corps, y compris à la sexualité, au ventre, alors je reviendrai plus tard, le ventre qui se gonfle, etc. Et puis, les loisirs, le dessin, enfin, il y a des instruments de musique, il y a des trompettes, il y a des cornes, il y a des vielles, il y a du jeu, il y a tous ces éléments fantastiques. Donc, avec Bruegel, on a vraiment quelque chose qui s'écarte. On n'est plus vraiment dans une culture religieuse, même si le thème est religieux. Mais vous avez quand même l'idée de la vanité.
Ah, Olivier, c'est quoi la différence entre un archange et un ange? C'est un chef de...
Ah, là, oui, il n'y a que quatre archanges. Il n'y en a que quatre. Attends. Le quatrième, bah ouais, mais ils sont que quatre, hein, il faut quand même pas...
Mais pour autant...
Normalement, il y a sept catégories d'anges, hein. Il y a les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges...
Parce que là, ça fait un peu chef d'escadron.
Ah bah c'est chef d'escadron, mais de toute façon, c'est lui qui combat le dragon. Saint-Michel, c'est celui qui pèse les âmes à l'entrée du paradis, c'est vraiment celui qui met de l'ordre dans le monde aussi, au jugement dernier.
Les quatre
archanges. Ah bah oui, quatre évangélistes, quatre archanges, quatre éléments... Quatre cardinaux, le monde est bien fait. Alors.
Par quatre, c'est chiffre 4.
Votre peinture de Bruegel est importante aussi et qui montre le recul et l'idée qui nous donne à penser que c'est aussi un état du monde, alors là, dans une sorte d'humanité éternelle. Avec la chute des anges rebelles, vous avez le précédent, vous avez presque l'idée d'une sorte d'humanité profonde et cachée. Des fantasmes. On est là hors du temps et hors des lieux. On est quelque chose d'absolu, puisqu'on est dans le paradis, la rébellion, les fantasmes, les peurs, etc. Dans cette peinture qui s'appelle La montée au calvaire, il y a eu un film que je n'ai pas vu, c'est La croix et le moulin. Récent, je vous l'avais dit. Il est attiré de cette peinture. C'est une peinture religieuse. C'est une peinture religieuse. C'est comme chercher Charlie, Jésus est là. Jésus est là et il n'est pas caché en plus parce qu'il est vraiment. Il est en plein milieu. Il est là. Avec sa croix. Et là, vous avez vous avez le Golgotha ici. Et vous avez donc la montée au calvaire, mais qui est présentée alors au sens strict. Bruegel prend du recul comme dans la tour de Babel. C'est que d'abord l'horizon est haut. Très haut. Les premiers plans sont petits. Alors ça, en termes strictement optiques, ça, on avait déjà vu ça, si le premier plan est petit, si l'horizon est haut, en fait, les gens qui sont au premier plan, ils ont la taille de celui qui peint. Puisque c'est ceux qui sont le plus proche. Donc, si celui qui peint a la taille de ses personnages, ses yeux, normalement, sont en hauteur de l'horizon. L'œil de celui qui peint, qui montre, est toujours à l'hauteur de l'horizon. Donc, quelqu'un de cette taille-là, pour qu'il soit à la hauteur de l'horizon, il faut qu'il soit en hauteur. Donc, il faut qu'il soit en hauteur, et un peu reculé, il est plus loin, mais il contemple la scène. S'il la contemple, il nous la montre aussi. Et il nous montre dans toute sa diversité. Et cette diversité, elle fait penser. Parce que vous avez une scène centrale, mais qui est toute petite. Qui est toute petite et on peut très bien passer à côté sans la voir. D'ailleurs, il y a plein de gens, nous, on ne peut pas la voir, vous avez plein de gens qui passent à côté sans la voir. Il faut autre chose. Ils se disputent, ils se battent, il y en a qui volent, ils n'ont rien à faire de Jésus, de tout ce qui se passe à côté. Il y en a qui font. Qui vont marcher, vous avez un colporteur, vous avez donc une multitude de scènes ici, diverses et variées, des faits divers, on peut se balader, des gens qui travaillent, certains qui vont à la chasse ou qui sont en train de je sais pas quoi, d'autres s'amusent visiblement, des enfants, ici vous avez tout, et puis vous avez quand même certains qui sont en train d'accompagner Jésus, alors Jésus il semble encore plus seul au milieu de ces foules, quasiment complètement ignoré. Et la foule aussi, donc quand vous avez la foule qui se rassemble, c'est plutôt pas très rigolo, parce que la foule, elle est déjà en train de se rassembler pour le spectacle. C'est-à-dire qu'ils vont, ils attendent le super, les éditions, etc. Donc vous avez une foule qui est soit différente, soit complice, soit voyeuriste, etc. Et vous avez donc une vision d'une humanité, pas toujours de l'empathie, une relativisation totale de la mort de Jésus, mais qui est aussi très subtile chez Bruegel, parce qu'en général, lui, il expose les faits. Il expose les faits, ça veut dire qu'il méprise la mise à mort de Jésus, mais il la relativise, parce qu'il nous montre aussi une multitude d'autres mises à mort. Des roues, qui lui sont contemporaines, c'est pas contemporain des Romains, donc des exécutions qui sont contemporaines. Vous avez une multitude de roues ici, donc des roues, là, vous avez des roues, des gibets, des potences ici, au loin. Vous avez donc l'idée que Jésus est un martyr parmi d'autres aussi. Il est petit, il est un martyr parmi d'autres. Et si vous voulez, est-ce qu'on fait autant attention aux martyrs contemporains qu'on a fait attention à Jésus? Donc vous avez aussi une sorte de critique. Le monde tourne, la terre est belle, le ciel est beau, le paysage est beau, le moulin tourne, et en même temps, vous avez des drames qui se nouent avec une humanité qui est parfois indifférente. Et là, vous avez Bruegel, et qui en même temps est belle dans sa diversité. Et ça dépend où on pose le regard. Là encore, quelque chose qui fait vraiment réfléchir. Et on voit bien que Bruegel, en prenant du recul, il veut tout nous montrer. Et à nous de choisir. Alors on peut être au premier plan, malgré tout, le plan le plus proche revient dans une peinture religieuse plus classique, puisque là vous avez quand même Marie, Jean, Marie-Madeleine et puis une autre Marie. est assez gonflé, c'est qu'il met des costumes dont on pense que des costumes plutôt de, qui lui sont contemporains, sans doute espagnols, etc. Alors là aussi, Auriel est très original, ça ne correspond à aucun autre artiste, c'est aussi sur sa manière de représenter l'espace. Puisqu'on le voit très très haut, c'est une vision vraiment panoramique au sens strict, en ellipse, alors je reviendrai tout à l'heure là-dessus, vous pouvez aller vers la droite ou vers la gauche, hein, au premier plan, tout droit, c'est le radeau, c'est obligé de dire en œil de poisson. Déjà, dans la tour de Babel, vous aviez une ellipse, le bâtiment lui-même était elliptique, et vous aviez aussi sa façon de le contourner ou de monter, et vous avez chez lui un dispositif de présentation qui est très original. Une chose aussi que l'on trouve dans la tour de Babel, c'est l'importance entre la diversité et l'unité. Puisque dans la tour de Babel, vous avez une multiplicité de détails incroyables, mais en même temps, ils fonctionnent tous ensemble. Si vous les regardez bien, ils ne sont pas séparés les uns des autres, ça constitue un tout. Et bien là aussi, c'est une façon de voir l'humanité comme un tout. L'humanité, c'est un tout, avec du bon, du mauvais, du cynique, de l'affreux, des drames, de l'innocence, du jeu, le temps qui passe, certains héroïsmes, de l'ignorance, de la vie, de la mort. Vous avez vraiment quelque chose qui, de ce point de vue-là, est aussi du ciel menaçant, des campagnes bien joliment travaillées, etc. Alors, l'artiste qui a fait, le cinéaste qui a fait le moulin et la croix, c'est assez intéressant, c'est qu'on a la croix qui tourne ici, la croix du moulin et la croix ici de la crucifix. Et puis là, vous avez aussi des gaufres. Vous voyez, c'est des rappels assez subtils au niveau de l'ellipse. Vous avez l'ellipse du personnage ici, l'ellipse des roues et l'ellipse globale de toute sa scène. On verra tout à l'heure les ellipses chez Bruyère. Le portement de la croix, ou la montée au calvaire. Alors, un autre tableau de Bruyère que je vous incite à aller voir de près, presque à faire le voyage pour. Ensuite, vous aurez deux tableaux pour le prix d'un, puisque c'est la même salle où vous avez le jardin des délices de Jérôme Bosch, c'est à Madrid au Prado. Vous avez le triomphe de la mort, le triomphe de la mort de Bruyère. Bonjour. Alors, là aussi, vous avez une peinture qui correspond à aucun de ses contemporains. Les danses de la mort, les danses macabres, on en a déjà vu, mais jamais présentées comme ça. Là encore, horizon très haut, que Bruegel prend un recul, et nous montre ici une mort sans issue, qui ne fait aucun sens. En général, dans les danses macabres, vous aviez l'idée que la mort, mais c'était dans des églises, c'était dans des lieux qui évoquait un petit peu la vanité de la vie, etc. Mais là, vous avez vraiment quelque chose, une vision en hauteur, des cieux embrasés, enflammés au loin, et quand l'horizon se dégage, qu'est-ce qu'on voit? Des potences, des gibets, des roues et des exécutions. Ici, il y a un squelette qui s'apprête à décapiter ou à tuer quelqu'un qui est là. Vous avez des suicides, vous avez des morts de masse, vous avez, on va voir des morts individuelles, et vous avez aussi une vision totalement infernale, incroyable. Le chariot ici avec des squelettes. Ici, vous avez la mort chevauchant sa rédelle, son squelette, ici au centre, avec une grande faux, précipitant tous les humains vers un cercueil gigantesque qui est ouvert, avec y compris un squelette qui barre à la mesure. Un son incroyable. Vous avez ici, avec ces squelettes ici sur le côté, on voit bien qu'ils sont en train de tirer le levier pour ouvrir l'espèce, et une armée de squelettes derrière des couvercles de cercueil. Comme Eisenstein, les chevaliers britanniques, ou ces visions hallucinantes hein, d'un monde humain qui effectivement voué à la mort, les morts de masse, les morts individuelles. Alors on peut croire qu'on y échappe. Ici vous avez un chevalier désuet, là encore une vanité, qui va tirer son épée, mais pour rien. Vous avez des amoureux qui pensent y échapper en jouant de la musique dans leur coin, en se mettant le plus loin dans un petit coin, mais là vous avez déjà un squelette qui est déjà en train de jouer de la musique. Ceux qui jouent aussi au trictrac, au dé, etc., en sensant que le jeu serait une échappatoire, elles sont déjà passées. Et vous avez tout le monde qui passe, alors c'est un thème de la danse macabre, hein, puisque vous avez les soldats, vous avez les paysans ou les ermites, vous avez les hommes, les femmes, les moines, etc., et y compris le roi, ici, à gauche, hein, avec le sablier, tout l'or qu'il a amassé ne lui sert à rien, etc. Alors, là encore, vous avez une diversité incroyable, toutes les morts possibles. Réunis dans un seul espace, un espace en hauteur, et une idée évidente, c'est Dieu ou pas Dieu, à la limite, la question n'est pas là. La question, c'est que, voilà, il y a un fait incontestable, vous n'échapperez pas, tout seul, en masse, toutes les morts possibles. c'est vraiment ce qui caractérise la Terre. Et dans tous ces tableaux, Bruegel réduit la portion du ciel. Très clairement, le ciel est petit. Genre, qu'est-ce qu'il va en venir, on ne sait pas. Même ce qu'il en vient, on a vu, c'est les gens de Jobel. Donc, qu'est-ce qui vient du ciel? Quand ça vient, c'est tout petit, c'est fragile. Hein, Jésus, l'autre, il arrive. Alors, on continue à tourner sans lui, ou à côté de lui. Et son sacrifice a l'air d'être vain. La preuve, c'est que ça continue encore. Et là, vous avez un petit peu la même idée. Il y a une croix, mais qu'est-ce qu'il y a de la planche? Donc, alors, là, vous voyez, elle est plus que fort. Excusez-moi, c'est que ici, il donne aussi une unité colorée à sa diversité. C'est que vous pouvez les regarder dans le détail. Et en même temps, chaque figure fait partie de la totalité. Hein, puisque, que ce soit par les tons, par les couleurs, par la cohérence parfaite des espaces qu'il représente, on est dans une très très grande unité. Alors, le concept philosophique sur le monde, hein, et ça aussi c'est quelque chose où on voit que Bruegel s'écarte complètement d'une morale chrétienne classique pour essayer d'inventer une philosophie humaniste, tout simplement, exactement comme Rabelais, hein, avec aussi quelque chose qui rentre en écho avec ses contemporains, c'est la question de la folie, justement. On voit que la folie peut gouverner le monde, l'horreur, les massacres, les guerres, les fantasmes. Et là, vous avez un tableau qui s'appelle Marco la folle. Marguerite ou Marco. Donc Marco la folle, mais en fait, elle est folle peut-être. C'est une sorte de clochard un peu folle. Alors dans la tradition flamande, c'est Griette, G-R-I-E-T. Et en flamand, on dit Dul, c'est un peu Dul ou Griette. Donc là, voilà, elle est un peu folle, quoi. Elle est avec son épée et ses affaires qu'elle travaille toujours avec, une sorte de SD clochard. Franchement, on peut. Dans le Père Noël, il est une. C'est le Père Noël, ou ça?
Oui.
C'est ça, c'est Zézé. Mais en fait, elle est peut-être folle avec toutes ses affaires, mais en fait, elle est folle dans un monde de fous, mais qui sont eux dangereux. Et elle, finalement, elle est peut-être moins folle, avec son univers qui est propre à elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans l'éloge de la folie de Erasme, qui est en train de Bruegel. Vous avez aussi dans la Nef des Fous de Sébastien Brandt, qui est un flamand, un alsacien, qui écrit la Nef des Fous, où il décrit la folie du monde. Dans la folie du monde, finalement, le fou fait peut-être bien d'être fou pour échapper à la folie du monde. Parce que cette folie du monde, en fait, si on la regarde avec raison, eh bien, c'est invivable. En fait. Et Bruegel nous montre effectivement une Margot la folle qui parcourt un monde de délire complet, où là, ce n'est plus uniquement les anges rebelles, parce que là, ils ne sont pas précipités sous terre, ils sont sur terre, et ce sont des visions effroyables.
Sur l'humanité. Et pourtant, il est fasciné par l'humanité au point
réfléchit, et c'est un des premiers artistes qui peint, non pas des sujets mythologiques ni royaux, mais qui se pose la question du genre humain. Qu'est-ce que c'est que le genre humain? De quoi est-il fait? De quoi est-il capable? Et la moitié de sa vie à peu près, il commence, enfin, la moitié de sa vie de peintre, il commence à avoir une vision plus équilibrée. Après avoir vu une vision un petit peu infernale, on a vu dans la Tour de Babel qu'il commençait à avoir aussi un peu plus de ciel, un peu plus trouver sa place, accepter finalement d'avoir une sorte de part de défi. Hein, et ces peintures que l'on voit comme le combat entre Carnaval et les Carèmes, elles aussi présentent une sorte d'harmonie. On n'est plus dans la dramatisation, on est dans une sorte de caricature plutôt bienveillante sur ses contemporains. D'un côté, vous avez le Carnaval, qui est la tradition populaire. On verra plus tard quand on verra Martial, toutes ces traditions populaires qui s'expriment dans la peinture, qui sont enfin, qui sont comme une sorte de ruisseau souterrain qui ressurgit régulièrement dans l'histoire de l'art et de la peinture, sous forme de satire, sous forme de corps, sous forme de sexualité, sous forme de mythologie, ou sur la figure du paysan. Et là, par exemple, vous avez la grande fête de Carnaval, où les gens sont en excès, excès de nourriture, déguisement, cris, bruit. Des choses qui font du bruit, ils sont en train de sortir, on est dans le grotesque, ils sortent du cabaret. Le cabaret ici, on voit ici des gens qui applaudissent, qui font la musique, enfin la musique en faisant du bruit, et donc une sorte de procession de gens près des choses, du corps, la viande, du pain, les sandwichs, enfin les sandwichs, les œufs, la nourriture, les galets, etc. Et on sait la tradition flamande de la nourriture aussi et de la fête, qui est encore très vivante. Au carnaval de Dunkerque, bon, j'ai voulu faire les tours, hein, parce que c'est voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, même les... C'est chaud, hein, et même à Berg, là, Berg, voilà, une fois, je suis tombé au carnaval de Berg, là, au coin de l'Animoun, c'était incroyable, c'était dingue, hein, le truculence, la vulgarité, la grossièreté, parfois, qui excède tout, ça reste très vivant. Donc une vraie tradition populaire. Et puis vous avez ici la tradition austère, qu'on va trouver plutôt dans la tradition hollandaise, effectivement, ou religieuse, du mi-carême. Et dans ce cas-là, où tout est maigre, tout est austère, vous avez une planche ici avec trois malheureux varans, vous avez ici quelques petits bretzels tout secs, vous avez y compris peut-être l'aumône, et vous avez des gens aussi quelque part, ils sont déguisés, mais ils se couvrent le corps, ils sont penchés en avant, au contraire. Et ces deux-là forment une sorte d'ellipse encore. Je vais revenir sur le thème de l'ellipse. Au milieu, vous avez peut-être la solution. Bon, le marché continue, il y a le donjon, il y a le poisson, on va prendre de l'eau, on joue, etc. Vous avez des enfants qui jouent, etc. C'est que là, vous avez une sorte de scène ronde au centre, et autour, vous avez ces espèces de ceux qui sortent de l'ellipse ou ceux qui sortent du cabaret. Qui se rejoignent, ils vont se combattre, et Bruegel prend du recul là aussi. Dans quelque chose. Mais il y a une certaine sympathie, on sent, parce qu'il peint ça avec une grande précision, une grande attention, comme si aussi il voulait un peu nous amuser, nous distraire et nous faire réfléchir. Et vous n'avez quasiment pas de ciel. Là, il y a tout petit morceau de ciel, on devine à peine la nef de l'église, c'est-à-dire que ce qui compte aussi c'est la place du village, vivre ensemble. Il y a un moyen quand même de vivre ensemble. Et c'est aussi un des premiers artistes qui peint non pas des lieux, dans la Tour de Babel, tout extraordinaire, mais qui était fait de petits lieux. Chez Bruegel, on voit rarement des palais, on voit rarement des grandes églises, on ne voit pas de tout comme ça. On a cette idée aussi que l'humanité, c'est le bruitement et la diversité. Alors c'est pour ça que je reviens à la Tour de Babel, parce que dans la Tour de Babel, finalement, la richesse, est-ce que c'est la tour ou est-ce que c'est la diversité des langues? Et vous avez cette idée aussi que finalement, l'humanité, elle ne peut être elle-même que dans la diversité. Une langue unique, finalement, c'est pauvre. Et peut-être qu'il sait mieux d'avoir cette diversité de langage qui exprime une chose, le genre humain, et ça c'est quelque chose que vous trouvez dans Rabelais. Dans Panurge, quand on rencontre Panurge, etc., je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote qui est très belle sur Panurge, je crois que c'est également faux, je ne sais plus, qui rencontre Panurge sur la route. Panurge est tout maigre, dévenaillé, dit bon, il a faim, et Pantagruel, je crois, lui pose des questions, lui dit de quoi as-tu besoin. Et Panurge lui répond alors, en grec, en latin. dans sa diversité, et puis en même temps, il y a des valeurs inconfondables, il y a des choses qu'il faut peut-être être capable de voir tout de suite. On est aussi dans une réflexion subtile et philosophique que Bruegel exprime à sa façon. Alors, après, vous voyez bien que c'est aussi quelqu'un qui fait systématiquement son travail. Et systématiquement, il essaie de voir aussi une multitude de ses peintures pour cette question aussi de la diversité et de ce qui fait sens et des valeurs positives. Par exemple, l'enfance. L'enfance est une valeur positive. Là, les enfants ne se font pas la guerre, ils vivent tous ensemble, ils jouent ensemble. C'est une sorte de monde un petit peu rêvé. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a quasiment pas de ciel. Il n'y a quasiment pas d'église, on devine à peine un toucher, à peine une église au fond, on s'en fiche. On est là dans une harmonie de la diversité, chacun jouerait, certains veulent être seuls, et puis on est aussi dans l'idée que l'enfance va aussi prendre du temps. Ça aussi c'est quelque chose qui est essentiel, on est hors de l'instant, et d'ailleurs c'est très touchant, parce que là c'est pareil, quand vous zoomez, là, je vous incite à zoomer, ce qui est incroyable, c'est qu'on a des jeux qu'on connaît encore, les chasses, le cheval, la chaise, le petit cheval, le cerceau, le collin baillard, le bricoler, jouer à la marchande, jouer au lit, se cacher, faire des galipettes, faire du cheval, et faire la toupie, se baigner tranquillement dans la rivière, s'amuser, acheter des trucs, jouer à la toupie. Et vous avez là encore une sorte de liste aussi de toute la diversité possible des jeux, et cette fois-ci sans conflit. Alors, cochon pendu, oui, cochon pendu, si, il serait au trigo. Et la queue leu-leu, puis alors, partout. Donc, et. Ben, ben, c'est pas des légos, mais. Un petit conflit, etc. Et toutes ces choses-là, garçon et fille. Garçon et fille, indistinctement de toute leur culture, leur référence. Comme s'il y avait aussi une universalité de l'humanité aussi. Ça, c'est quelque chose que Bruegel essaie de voir aussi. À la fois, il s'inscrit dans son époque. Et en même temps, il essaie de concevoir et de penser quelle est l'universalité du genre humain. On la voit dans Babel, on la voit dans la chute de l'ange. Dans toutes ses œuvres, il y a un questionnement qui est très clair sur l'actualité, l'universalité, la diversité, ce qui peut être unique aussi. Et puis toujours, lui, à une certaine distance, alors pas pour s'en éloigner, pour mieux voir. Ça aussi, c'est très clair. Lui, il garde à une certaine distance, mais ils ne sont pas microscopiques. La preuve, c'est qu'il réussit à tous les identifier. Du recul pour mieux voir, et on peut dire qu'au sens strict, c'est une certaine lucidité. Alors, c'est pas un hasard, c'était par Lucifer, l'idée de faire la lumière sur. Alors là, vous avez aussi quelque chose qui est clair chez Bruegel, c'est que vous avez toujours aussi des formes rondes de personnages, même souvent. La tour de Babel est ronde, hein, le panorama est elliptique, et puis vous avez quand même des choses construites. Là encore une sorte de combinaison, même des... Alors les proverbes, hein, vous connaissez aussi peut-être les proverbes, là encore une sorte de liste populaire. Là encore, Bruegel s'intéresse à des corps sociaux, on va dire, qui en général ne sont pas représentés. Ils sont en dehors de toute scène. Les enfants n'ont pas de statut quasiment, et pourtant ils vivent bien, et Bruegel est capable de les voir. Juridiquement, même au niveau du. Les enfants se travaillent très vite, il y a quasiment très peu d'école. Donc, si vous voulez, un enfant au niveau de la société, d'abord il y a beaucoup de mortalité infantile, donc ils ne sont pas forcément investis. Ensuite, quand ils deviennent en âge de travailler, très vite ils travaillent. Donc le monde de l'enfance est un monde très court et qui a quasiment.